Les séminaires du Collège de France.
Juste pour introduire Yves Bréchet. Je suis très heureux. Donc, comme vous le savez, on discutera, gardez vos questions pour après l'intervention de Yves. Vous nous poserez à tous les deux les questions que vous souhaitez. Ceux qui sont debout, il y a des places, hein, si vous voulez. Enfin, il y en a quelques-unes, pas énormément, mais bon. Voilà. Yves Bréchet, membre de l'Académie, vous avez tout là, hein, membre de l'Académie des sciences, grand spécialiste des matériaux pour le nucléaire, hein, pour simplifier. C'était son activité de recherche. Grande responsabilité, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Et si vous êtes curieux, à nouveau, vous pouvez écouter sur YouTube son audition par la commission parlementaire, c'est intéressant. Mais on ne va pas parler de ça, je crois. Ce qui est important, c'est que nous comprenions bien tous l'enjeu de cette question des réacteurs de quatrième génération. Yves, je te laisse la parole.
Alors, je vous prie d'abord de m'excuser de l'état de mes cordes vocales, j'en suis pas responsable, on va essayer de faire durer ça le temps du séminaire et des questions. Alors, avant de commencer, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Marc. Les auditions à l'Assemblée nationale ont été largement écoutées par la population. Le rapport qui vient de sortir, c'est un gros pavé de 500 pages. Je pense que les 30 premières pages qui sont la synthèse du rapport et les 30 propositions sont des choses que tout citoyen devrait lire. Pour avoir pratiqué la fonction de conseil du gouvernement pendant 6 ans, je sais la propension naturelle des gouvernants à s'asseoir sur les rapports qu'on leur envoie, avec une efficacité assez remarquable. Je pense qu'il serait encore plus grave qu'on s'assoie sur les recommandations de la représentation nationale. Donc je vous invite vivement à demander à vos députés à ce qu'il y ait un suivi annuel des recommandations qui ont été faites. Je vais vous parler de la génération 4 de l'énergie nucléaire. Les transparences sont en anglais, les dessins sont en français et tout mon texte est en français, donc ne vous inquiétez pas. Je me disais que ça pouvait être utile pour des non-francophones qui pourraient éventuellement se trouver dans la salle. L'autre aspect sur lequel je voulais insister, je ne suis pas physicien nucléaire, c'est-à-dire je ne suis pas physicien du noyau, je ne suis pas physicien de la science, de la science nucléaire, je suis un spécialiste des matériaux. La physique nucléaire dont je vais vous parler, c'est une physique nucléaire qui est née à peu près à l'époque de Joliot-Curie et de Fermi. C'est une discipline qui est ancienne. Il n'y a pas eu de professeur de physique nucléaire au Collège de France depuis Francis Perrin, et c'est assez normal. Parce que ce dont je vais vous parler, c'est la manière dont on utilise cette science pour produire de l'énergie. Il y a eu des innovations technologiques, mais assez peu d'innovations proprement scientifiques. Alors, je vais vous parler essentiellement de la quatrième génération. Vous pourrez me poser des questions sur la troisième, sur celle qu'on a en ce moment, sur comment on reconstruit, etc. J'ai voulu focaliser à la demande de Marc sur la quatrième génération et en particulier un problème qu'on appelle le problème de la fermeture du cycle du combustible. Alors on va essayer de voir si ça marche. Alors je vais commencer par vous donner quelques idées simples que je considère comme structurantes sur le rôle de l'énergie nucléaire et sur son caractère plus ou moins durable. Ensuite, j'essaierai de vous parler de différentes solutions qui peuvent être envisageables pour faire ce qu'on appelle fermer le cycle nucléaire, c'est-à-dire à la fois gérer le problème des ressources et le problème des déchets. Alors, je vais commencer par vous raconter des histoires de neutrons en vous parlant de la sagesse de Enrico Fermi. Après, je vous parlerai de la zoologie des réacteurs. J'essaierai de vous montrer quelques options qui sont envisagées et qui correspondent à différentes échelles de temps et différentes échelles de maturité. Quand vous conseillez un gouvernement pour prendre des décisions, en principe, vous devez avoir en tête que ce n'est pas la même chose de mettre en place des technologies pour pouvoir les développer tout de suite, de mettre en place des technologies pour développer un prototype, et de mettre en place des recherches qui permettent de regarder des solutions en rupture à plus long terme. Et je pense qu'un des problèmes majeurs qu'on a vu dans les 30 dernières années, qui ont été définis par le rapporteur de la Commission comme 30 années de divagation dans le domaine de l'énergie, est une confusion des genres entre les différentes échelles de temps. Donc j'essaierai de bien les distinguer. Donc je vous parlerai d'abord des réacteurs à sel fondu. Je vous parlerai, donc en disant ça c'est une solution qui mérite d'être étudiée, je vous parlerai de la question du multi-recyclage en réacteur à eau pressurisée, qui est une solution ou une pseudo-solution qui est présentée et dont je dis qu'elle doit être analysée avec beaucoup de précautions, parce qu'elle est tellement séduisante que, comme disait Jean Rostand, une vérité qui fait plaisir doit être prouvée deux fois, mais une crapulerie doit aussi être démontée dès que possible. Le troisième point, je vous parlerai des réacteurs à sodium, des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, en vous brossant le portrait de tout ce qu'on a appris dans les 40 dernières années d'études de ces réacteurs-là. Et malheureusement, je serai obligé de faire un petit point sur ce que j'appelle le bis repetita, vous verrez ce que j'entends par là. Et je terminerai par un peu, à la fois un historique et une vision du futur. Alors, quelques idées structurantes sur le rôle de l'énergie nucléaire et les conditions de soutenabilité. Alors, il paraît qu'il faut qu'on fasse comme nos voisins. Alors voilà un petit diagramme que je trouve très joli, qui grosso modo vous dit où est-ce que pendant très longtemps nos voisins allemands ont envisagé de viser pour essayer de diminuer leur consommation, leur production d'électricité, leur consommation d'électricité. Et voilà maintenant où ils en sont, parce que quand même, ils viennent de réaliser que si je veux électrifier le transport, si je veux électrifier le chauffage, toutes ces choses-là, ça ne va pas se faire comme ça. Donc ce diagramme me semble assez éclairant sur ce qui nous attend. Ça va tout à fait dans le sens que nous a présenté Marc. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu, c'est grosso modo vous montrer les émissions de CO2 par kilowattheure produit et vous montrer que c'est assez extraordinaire qu'on ait eu honte de faire quelque chose qui précisément était une des meilleures solutions en termes de production d'électricité et de en fonction de son impact en termes de CO2. Le troisième point, celui-ci, différents pays. Marc vous l'a aussi présenté, mais c'est juste pour bien positionner les choses. La France est un bon élève. C'est assez intéressant de voir qu'un bon élève qui a le record d'Europe de basse émission de CO2 par kilowattheure est obligé de payer des amendes. Des amendes parce qu'on n'a pas suivi les injonctions qui nous étaient faites de décarboner une électricité déjà décarbonée. Cherchez l'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est que la physique nucléaire dont on a besoin pour concevoir un réacteur ? Essentiellement, c'est un réacteur, c'est une réaction en chaîne, donc de la neutronique, et une machine à vapeur. Donc ça veut dire qu'on a à gérer un problème d'économie de neutrons. Ça, c'est lié à la nature du combustible, c'est lié à la géométrie des assemblages, c'est lié aux modérateurs qui nous permettent d'avoir les neutrons à l'énergie à laquelle on a besoin de les avoir, et je reviendrai sur ce point-là. Et puis, c'est des dispositifs qui permettent d'absorber les neutrons en trop grande quantité. Évidemment, quand on fait ces réactions en chaîne, ce qui se passe, c'est que les éléments qui sont les éléments du combustible, quand ils fissionnent, ça fait d'autres éléments, donc on a une évolution du combustible, et on a des produits de fission, d'une part, mais d'autre part, certains de ces éléments absorbent des neutrons au lieu de se fissionner, et là, ça veut dire qu'on passe au-delà de l'uranium, on va à ce qu'on appelle les transuraniens, donc le plutonium, et puis tout ce qu'on appelle les actinides mineurs. Donc il y a deux problèmes de déchets, il y a le problème des déchets de fission, et il y a le problème des actinides mineurs qui sont obtenus par une absorption de neutrons. J'y reviendrai parce que ça nous permettra de regarder avec un regard critique sur les différentes possibilités de recyclage du combustible. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est couplé à une machine à vapeur. La machine à vapeur devant faire fonctionner des alternateurs. Cette machine à vapeur, ça veut dire qu'il faut extraire la chaleur produite par une réaction nucléaire. Et il faut extraire ça de manière compatible par rapport à la capacité de ralentir ou de ne pas ralentir les neutrons. Une fois que je vous ai dit ça, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir pour savoir comment fonctionne une centrale nucléaire. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, si j'avais à résumer l'électronucléaire, je dirais que c'est une épicerie à neutrons qui est couplée avec une machine à vapeur. Cette épicerie à neutrons part de combustible et fait des déchets. La machine à vapeur génère de la chaleur ou génère de l'électricité. C'est d'ailleurs une question intéressante de savoir est-ce qu'on doit, dans un réacteur nucléaire, produire uniquement de l'électricité ou est-ce qu'il ne serait pas astucieux d'avoir un cycle de Carnot qui est un peu moins efficace, mais où on rejetterait de l'eau à un peu plus haute température qui produirait de la chaleur. Ça veut dire qu'on aurait un réacteur qui serait calogène et pas simplement électrogène. Alors je vais me focaliser dans le séminaire d'aujourd'hui sur la première partie, l'épicerie des neutrons. Donc vous avez le combustible qui va vous donner des déchets. Toute l'astuce de ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire toute l'astuce de la quatrième génération, c'est comment à partir des déchets, je peux refaire du combustible. Et ce qu'il y a derrière, en termes sociétal, en termes politiques, en termes de stratégie, c'est comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir les ressources en combustible et comment je peux m'assurer de limiter la quantité de déchets que je produis. Même si j'en produis pas beaucoup, comme le disait Marc, ce pas beaucoup est quand même un peu encombrant. Donc si on peut diminuer le pas beaucoup en question, c'est toujours ça de prix. Alors, le pas beaucoup, mettons quelques chiffres là-dessus. Si vous prenez 1000 kilos de combustible, 1000 kilos de combustible, vous avez un peu enrichi le combustible, parce qu'il n'y a qu'un seul des isotopes qui est fissile. Donc vous avez l'uranium-235, qui est celui que vous aimez bien, et vous avez l'uranium-238, qui est celui que vous aimez pas. Enfin, bon, celui-là, il ne sert pas à grand-chose, mais il est là. Si vous le faites fonctionner pendant 3 ans, ça c'est l'échelle de temps, vous allez vous retrouver avec des produits de fission, à peu près 35 kilos, vous allez vous retrouver avec des actinides mineurs, pas beaucoup, 0,8 kg, et du plutonium, une dizaine de kilos. Donc ça veut dire déjà, si vous arrivez à gérer proprement le plutonium, vous avez géré 90% de vos déchets embêtants, de vos déchets à vie longue. Donc ça, ça va vous amener à penser ce qu'on appelle la fermeture du cycle, c'est-à-dire la capacité d'avoir une ressource qui est compatible avec la gestion des déchets. Ça veut dire comment est-ce que je gère le plutonium. Le plutonium est la clé de voûte de l'ensemble. Alors, ce que vous avez ensuite, c'est la décroissance radioactive. C'est ce qui vous justifie le fait d'utiliser du stockage géologique profond pour stocker les déchets. Le stockage géologique profond, c'est consiste à faire la chose suivante. Vous prenez les déchets qui vous embêtent, c'est-à-dire essentiellement les déchets qui sont issus du combustible. Ces déchets-là, vous les confinez dans un verre. Ce verre, vous le mettez dans un conteneur en acier inox. Ce conteneur en acier inox, vous le mettez dans un tunnel en béton. Ce tunnel en béton se trouve sous 50 mètres d'argile et 500 mètres de cailloux. Ce qui importe, c'est pas les cailloux, c'est l'argile. Les cailloux, ça importe parce que ça évite d'aller creuser pour aller chercher les combustibles, pour aller chercher les déchets. Mais ce qui importe, c'est l'argile. Parce que la chimie joue à la fois sur la chimie et sur la géologie pour être capable de confiner les déchets nucléaires. Il y a plusieurs options qu'on peut imaginer pour confiner les déchets nucléaires. Vous avez vu l'échelle de temps sur laquelle on doit les confiner, c'est à peu près 100 000 ans. C'est le temps qu'ils mettent à ressortir. Quand ils ressortent au bout de 100 000 ans, ils sont plus radioactifs, ou essentiellement plus radioactifs. Alors maintenant, si vous prenez ça du point de vue de l'ingénieur, un truc sur 500 ans, je sais faire. C'est grosso modo une cathédrale. De temps en temps, on la fait brûler, mais c'est une cathédrale. Donc construire quelque chose pour 500 ans, un ingénieur sait faire. Construire quelque chose pour 100 000 ans, il ne sait pas faire. Par contre, on peut trouver des zones géologiques qui sont parfaitement stables à cette échelle de temps. Et la chimie a peu de chances de changer entre maintenant et dans 100 000 ans. Et si vous prenez les actinides, c'est-à-dire ceux qui nous embêtent, les actinides mineurs et le plutonium, eh bien, si par hasard ils sortent du conteneur en verre, et ça, ça va prendre du temps parce que ça ne diffuse pas vite dans ce truc-là, s'ils sortent du conteneur en verre, s'ils sortent du conteneur en métal et qu'ils se retrouvent dans l'argile, la basicité de l'argile fait que ces atomes qui pourraient bouger, mais pas très vite parce qu'ils sont gros, ces atomes qui pourraient bouger, en fait, se mettent en paquets et précipitent. Et des précipités, c'est-à-dire des petits paquets d'atomes, ça bouge pas vite. Donc, en fait, toute l'astuce du stockage des déchets nucléaires est une astuce qui couple la géologie, la chimie et les autres confinements en termes de matériaux qu'on a mis autour. Donc, quand on vous dit qu'on ne sait pas gérer le problème des déchets radioactifs, c'est un mensonge. Alors, regardons les différentes possibilités pour fermer le cycle. Alors, fermer le cycle, je vous ai dit, c'est prendre le combustible, en faire du déchet, prendre le déchet et en faire du combustible. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour faire ça? On va essayer de commencer par la sagesse de Enrico Fermi. Les idées que je vais vous présenter aujourd'hui sont des idées qui ont à peu près 80 ans d'âge. Elles sont bien établies scientifiquement. Enrico Fermi, c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être découvert. C'est un physicien absolument extraordinaire. Quelqu'un qui avait à la fois une intuition physique tout à fait remarquable. C'est aussi lui qui a mis en place les méthodes de Monte Carlo. C'est quelqu'un qui travaillait aussi bien avec les physiciens qu'avec les chimistes ou avec les mécaniciens. C'est Enrico Fermi qui a à la fois créé la première pile atomique à Chicago. On va en fêter le 80e anniversaire cette année. Et c'est aussi lui qui a inventé le concept de réacteur à neutrons rapides dont je vais vous parler. Alors la sagesse de Fermi, c'est en gros, on va essayer de mettre les choses dans les boîtes. Dans les éléments, il y a des tas d'éléments dans la table de Mendeleïev qui sont ennuyeux. Mais il y a quelques éléments qui ont une caractéristique, c'est d'être soit fissile, soit fertile. Alors un élément fissile, c'est un élément qui peut subir une fission quand il capture un neutron. Donc il y a un neutron qui le bombarde, paf, il casse en morceaux, on se retrouve avec des produits de fission. Et ça, le seul élément qui est capable de faire ça, en fait, c'est l'uranium, c'est un isotope de l'uranium, qui est l'uranium-235. L'uranium-235, il y a à peu près 0,7% de l'uranium naturel. Donc vous êtes dans une situation où finalement la ressource n'est pas si énorme que ça, parce que l'uranium que vous avez, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est capable d'être fissile. Un élément fertile, c'est un élément qui peut devenir fissile quand il s'est absorbé un neutron. Donc typiquement, si je prends l'uranium-238, celui qui ne sait rien faire, s'il s'absorbe un neutron, ça devient du plutonium. Et ce plutonium devient lui-même cet isotope du plutonium. Le 239, cet isotope, est fertile. On peut avoir de la même manière, à partir du thorium, on vous parle souvent de la filière thorium, à partir du thorium, vous pouvez créer de l'uranium-233, qui lui aussi est fissile. Alors, si vous regardez un neutron qui est issu de la fission, ces neutrons sont en général rapides. Et quand ils sont rapides, en fait, ils interagissent assez peu avec les autres éléments du combustible. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas réussir à casser efficacement l'uranium-235. Donc pour gérer ça, on est obligé d'enrichir le combustible. C'est pour ça qu'il avait fallu faire des usines d'enrichissement qui parlent de beaucoup d'uranium-238, un chouïa d'uranium-235, et je mets un peu plus d'uranium-235. Ça n'a pas été du gâteau d'un point de vue scientifique et technique, parce que la caractéristique de deux isotopes du même atome, c'est qu'en fait, ils sont chimiquement très proches, très proches. Donc pour les séparer, il faut soit avoir une chimie séparative qui est extraordinairement subtile, soit avoir des techniques d'ultracentrifugation, et c'est les techniques qui avaient été mises en place par Georges Bess à l'usine de Pierre Latte, je crois. Alors, si vous regardez, si vous voulez rendre efficace l'interaction des neutrons avec l'uranium-235, sans être obligé de trop l'enrichir, alors, pourquoi on n'aime pas trop l'enrichir? Parce que quand on l'enrichit trop, eh bien, on se retrouve dans la zone dans laquelle on fabrique des réacteurs qui sont des réacteurs de propulsion nucléaire. Réacteurs de propulsion nucléaire, c'est généralement pas pour faire marcher des pédalos, donc ça veut dire que c'est hautement contrôlé au niveau des accords internationaux. Et ça, c'est une autre chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'ensemble des décisions qui doivent être prises soient des décisions qui sont à la fois des décisions de nature scientifique, de nature technique, de nature économique, de nature industrielle, mais aussi de nature géopolitique. Alors, si on ralentit les neutrons, comment est-ce qu'on ralentit les neutrons? Eh bien, c'est un peu comme quand vous jouez aux billes. Si vous avez des toutes petites billes et des boules de pétanque, si vous avez ces billes qui cognent contre les boules de pétanque, elles ne vont pas perdre beaucoup de vitesse. Si par contre vous avez des billes qui cognent sur des trucs qui sont de très petite taille, eh bien vos billes vont pouvoir transmettre de l'énergie cinétique à ces trucs de très petite taille, et si elles transmettent de l'énergie, elles ralentissent. Donc en fait, toute l'astuce, c'est d'avoir des modérateurs qui en fait sont faits d'éléments légers, et ces éléments légers permettent de ralentir les neutrons. Et quand on ralentit les neutrons, on se retrouve avec une section efficace d'interaction qui est plus grande, donc ils sont plus efficaces pour fissionner le 235, l'uranium-235. Mais le malheur, c'est qu'on augmente aussi la capacité d'absorption, c'est-à-dire que vous allez prendre de l'uranium-238 et vous allez vous retrouver avec du plutonium, le plutonium que vous n'aimez que si vous voulez faire des bombes atomiques. Et vous allez vous retrouver avec du plutonium qui va encore se reprendre des neutrons ralentis, et là on va créer de plus en plus de ces actinides mineurs qui ont des durées de vie très longues. Donc vous sentez que si vous avez quelque chose, si vous voulez être efficace dans l'usage des neutrons, vous devez les ralentir, mais le fait de ralentir les neutrons vous crée des déchets. Donc ça, c'est un peu cette schizophrénie qu'on essaye de résoudre dans le problème dans les solutions de la cinquième génération, de la quatrième génération. Alors, une fois qu'on a commencé, on a fait la première bêtise qui a été d'arrêter Superphénix, l'emplâtre sur une jambe de bois, ça a été de dire, on va quand même essayer d'utiliser un peu mieux le combustible, et c'est là qu'on a développé ce qu'on appelle les combustibles MOX. Donc les combustibles MOX, c'est de prendre le plutonium-239 qui est fissile, de le séparer du combustible usagé et de le remettre dans un nouveau combustible. Et comme ça, on peut faire quelque chose qui, d'une certaine manière, permet de refaire un tour dans les réacteurs à neutrons rapides, à neutrons lents. Mais quand vous faites ça une fois, je vais vous expliquer que ça marche beaucoup moins bien après. Alors, toujours quelques idées simples sur la physique nucléaire. Si les neutrons ne sont pas ralentis, ce qu'on a, c'est que le plutonium-239 n'est pas dégradé, et l'uranium-238 génère du plutonium-239. Le combustible formé de plutonium-239 et d'uranium-238, vous vous souvenez, le 238, c'est le truc dont on ne sait pas quoi faire, eh bien, vous mettez du plutonium 239 et du plutonium 238, eh bien, vous pouvez l'utiliser dans un réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire avec des neutrons qui vont vite, qu'on n'a pas ralenti. Vous pouvez l'utiliser dans un mode qu'on appelle un mode surrégénérateur, c'est-à-dire vous allez créer plus de plutonium, ou un mode isogénérateur, où vous consommez autant de plutonium que vous en produisez. Vous pouvez même imaginer de faire un mode sous-générateur qui permet de brûler le plutonium. Ça, ça met des plombes. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le plutonium dont je vous ai dit que c'était un déchet, ça devient une ressource. Je peux en fabriquer plus, ça veut dire que je peux fabriquer plus de cette ressource pour faire plus de réacteurs. Si je veux garder les neutrons rapides, bien évidemment, il faut que je fasse bondir les neutrons contre des éléments qui sont lourds. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et parce que quand c'est ma bille qui rebondit sur la boule de pétanque, alors je ne peux évidemment pas le faire sous l'eau. Alors ça, c'est un peu embêtant, parce que l'eau, c'est quand même une manière très efficace d'extraire la chaleur. Donc il faut que j'extraie la chaleur par quelque chose d'autre que l'eau, qui ne ralentisse pas les neutrons, et c'est pour ça que les réacteurs à neutrons rapides sont des réacteurs qui sont refroidis au sodium et au plomb, parce que ce sont deux métaux qui sont en point de fusion relativement bas. Donc, l'idée des réacteurs à neutrons rapides, que je viens de vous esquisser ici, et c'est la seule physique nucléaire dont je vais vous parler pendant ce séminaire, l'idée des neutrons rapides date de Fermi, de la même manière que la construction du premier réacteur atomique. Alors, maintenant, on vous parle de tout un tas de réacteurs. Alors, je vous montre un diagramme que j'aime bien, c'est l'arbre phylogénétique des réacteurs. Il y en a toute une zoologie. Moi, je dis toujours aux gouvernements décideurs et autres que le meilleur investissement qu'ils puissent faire, c'est d'acheter un billet d'avion pour aller à Idaho Falls, aux États-Unis, où il y a un parc où ils ont essayé à peu près tout entre les années 50 et 65. Donc vous avez grosso modo un réacteur tous les 5 km, d'à peu près tous les types de réacteurs qu'on puisse imaginer. Donc vous avez des réacteurs à neutrons thermiques, des réacteurs à neutrons rapides, vous avez des réacteurs qui sont à eau pressurisée parce que ça permet d'avoir des températures de fonctionnement plus élevées, vous avez des réacteurs à eau bouillante parce que c'est plus facile à réaliser, vous avez des réacteurs, il y avait même des réacteurs à sel fondu, celui qui a été fait à Idaho Falls, c'est assez extraordinaire, c'était un réacteur à sel fondu qu'ils avaient envisagé d'embarquer dans un avion. Alors, je veux dire, quand vous connaissez un peu l'aviation et que vous savez le bonheur qu'on a avec le balourd des réservoirs quand ils ne sont pas complètement remplis, je vous laisse imaginer ce que ça donnait avec un réacteur sel fondu. Bon, le truc, il est resté au sol, hein, il n'a jamais décollé. Mais cet arbre phytogénétique, je vais essayer de vous parler très rapidement de ce qu'on a. Et ils sont très largement dominants, c'est les réacteurs à eau pressurisée. Donc, ce sont des réacteurs à neutrons lents, ralentis par l'eau. Ce sont des réacteurs où le fluide caloporteur, c'est l'eau qui extrait la chaleur. Ils sont sous pression parce que ça permet d'avoir de l'eau à 300 degrés sans avoir de la vapeur. Et ces réacteurs-là, eh bien, c'est ceux sur lesquels on a le plus grand retour d'expérience. La plupart des réacteurs qu'on a sur le monde sont des réacteurs eau pressurisée. Ils sont petits, ils sont grands, ils sont pratiquement tous sur une filière de combustible qui est autour de l'uranium et du plutonium. Donc gardez bien en tête, quand on vous parle d'un réacteur nucléaire, il faut se poser la question de savoir quel est le modérateur, quel est le fluide caloporteur, quelle est la nature des neutrons et quel est le combustible. Une fois que vous avez tout ça, vous savez vous positionner sur l'arbre phytogénétique des réacteurs dont je vous ai parlé. Donc, pour concevoir un réacteur, alors je vous ai dit c'est une épicerie à neutrons couplée avec une machine à vapeur, eh bien vous avez de la conception. Pour concevoir le réacteur, bien vous devez faire de la thermohydraulique, vous devez faire de la neutronique, vous pouvez faire beaucoup de matériaux, et ça doit durer, parce que l'eau, c'est quand même pas un, l'eau n'est pas un truc qui est très gentil pour les matériaux. Au contraire du sodium, contrairement à ce qu'on pense, le sodium liquide est extrêmement sympathique pour les matériaux. Ça peut être désagréable quand ça rencontre une goutte d'eau, mais pour ce qui est des matériaux, c'est le bonheur, ça, il les abîme pas. Alors pour ce qui est de la construction d'un réacteur, mais là, il faut savoir faire. Et je pense qu'il n'y a que dans les têtes de ministères qu'on s'est imaginé qu'on pouvait simplement, en entretenant un parc, garder la compétence pour le construire. Il faut faire des forges, il faut faire de la soudure, il faut faire du génie civil. Et c'est tout ça qu'il faut réapprendre à faire et réapprendre à faire vite. Alors après, vous avez toute la question de la mise en œuvre, de l'opération de ces réacteurs. C'est la fabrication du combustible, c'est les gaines de combustible, c'est le remplacement des composants, c'est la corrosion, c'est le vieillissement sous irradiation. Mais ça, on n'est pas des perdreaux de la dé dans ce genre de choses, puis ça fait grosso modo une cinquantaine d'années que ces études-là sont faites dans tous les pays qui ont développé une filière nucléaire. Alors, si je regarde un peu l'historique du développement du nucléaire dans le monde, On a commencé grosso modo dans les années 50 avec les premiers prototypes. Après, on a développé dans la génération 2 des réacteurs, à la fois les réacteurs à eau bouillante, c'est les BWR, les réacteurs à eau pressurisée, c'est les PWR, et une filière de réacteurs qui est très spécifique et qui est surtout au Canada, qu'on appelle les Candous, qui sont des réacteurs où le modérateur est de l'eau lourde, ce qui évitait d'avoir à faire l'enrichissement de l'uranium. Alors la génération 3, c'est celle qu'on a trouvée, la génération 3 et 3+, c'est là-dedans que vous trouvez l'EPR. L'EPR, c'est jamais qu'un gros réacteur à eau pressurisée. C'est pas quelque chose qui est particulièrement révolutionnaire. Les difficultés de l'EPR, c'est les difficultés de réapprendre à construire. C'est un problème qui est un problème industriel, ça n'est pas un problème scientifique. Et si je regarde la dernière phase, la quatrième génération, dont je vais vous parler maintenant, ça c'est une initiative scientifique, c'est une initiative internationale qui s'est trouvée lancée dans les années 2020 à peu près, où il y a un ensemble de pays, vous avez tous les petits drapeaux ici, qui ont fait un forum international qui s'appelle le Forum de Génération 4. Et le Forum de Génération 4 voulait développer des réacteurs qui étaient des réacteurs sûrs, qui étaient des réacteurs soutenables, c'est-à-dire qui réglaient ce problème de fermeture du cycle, qui étaient des réacteurs qui étaient économiques, des réacteurs qui évitaient la prolifération. Et on n'a pas envie, si on développe ces réacteurs à peu près partout dans le globe, que ça permette de fabriquer des joujoux qui ne sont pas des réacteurs et qui sont quand même nucléaires. Et on voulait évidemment qu'ils soient sûrs d'un point de vue sécurité nucléaire. Alors, voilà les 6 concepts qui ont été retenus. Ils n'ont pas été retenus par décret ministériel, ils ont été retenus par la communauté des gens de la science des réacteurs qui ont regardé quels étaient les différents concepts qui répondaient le mieux aux différents critères qui étaient imposés pour la génération 4. Donc vous avez le réacteur rapide refroidi au sodium, le réacteur rapide refroidi au plomb, les réacteurs rapides refroidis au gaz, les réacteurs à très haute température, les réacteurs à eau supercritique et les réacteurs à sel fondu. Alors, le choix des différents pays a été de dire, bon ben voilà les 6 réacteurs qui ont été retenus, moi je choisis de mettre des billes dans celui-là. Donc là vous avez le choix qui a été fait par les différents pays de dire, je vais faire de la R&D dans tel et tel réacteur. Donc la France, de manière pas surprenante, compte tenu du fait qu'on avait une longue expérience dans les réacteurs à sodium, avait choisi le réacteur à sodium, le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium, comme la tête de proue de sa génération 4. Alors, donc, je vais vous parler maintenant plutôt du réacteur à sodium, mais pas tout de suite. Parce que ce qui me semble important, alors j'aime beaucoup citer ce texte-là, l'amiral Rick Hoover, qui a dirigé la propulsion nucléaire aux États-Unis pendant à peu près 70 ans, je crois, ou 60 ans. Il est mort quasi centenaire. C'est un type assez extraordinaire. Et il disait cette différence entre un réacteur académique, c'est un réacteur qui est simple, qui est petit, qui est pas cher, qui est léger, qu'on peut fabriquer très rapidement, qui est très flexible et qui nécessite très peu de développement. Et il utilise essentiellement des trucs qui sont sur étagère. Ça, c'est le réacteur de papier. C'est le réacteur qu'on peut imaginer dans tous les départements de nuclear engineering du globe. Et maintenant, l'amiral Rick Hoover disait, ben, de notre côté, quand on veut vraiment fabriquer le réacteur et pas faire un presse-papier, eh bien, ça met du temps, c'est toujours en retard, ça date des années 50, hein, c'était ce texte de l'amiral Rick Hoover. Ça demande un très grand nombre de développements sur des choses aussi triviales que la tuyauterie, la plomberie, la corrosion, etc. Il est en général très cher, ça prend du temps à construire parce qu'on a des problèmes de développement d'ingénierie qui ne sont pas triviaux, et puis il est gros, et puis il est lourd, et puis il est compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que tous les gens qui vous disent « Ah, j'ai une idée géniale, je vais vous faire une super série de transparents version McKinsey pour vous présenter des SMR, mais oui, donnez-moi des sous, je vais savoir faire », vous avez 9 chances sur 10 de penser qu'ils sont en train de vous truander. Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder le diable dans les détails. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ces initiatives, mais il faut se poser un certain nombre de questions qui sont des questions aussi ancillaires que de savoir des questions de plomberie, des questions de tuyauterie, des questions de corrosion, des questions de disponibilité du combustible, des questions de recyclabilité du combustible à la fin. Alors ça m'amène à cette image qui peut vous sembler un peu simple, mais qui à mon avis est une grille de lecture assez saine des décisions à prendre quand on a à se poser la question du déploiement d'une filière de réacteurs. faut distinguer les technologies qui sont disponibles de des technologies qui ont déjà des prototypes et de technologies qui sont des technologies en rupture. Quand vous avez besoin de déployer quelque chose rapidement, il faut utiliser des technologies qui sont disponibles. Et c'est pour ça que si on doit renouveler le parc électronucléaire français, il faut s'appuyer sur la filière avérée, qui est la filière des réacteurs à neutrons thermiques avec un cycle combustible qui est le cycle uranium-plutonium. Si vous voulez préparer la suite, c'est-à-dire industrialiser quelque chose que vous avez déjà bien étudié, vous avez déjà fait des prototypes, mais ça, d'une certaine manière, c'est pour demain, eh bien, typiquement, c'est ce qu'il va falloir faire pour développer des réacteurs qui vont vous permettre de fermer le cycle. Donc, la logique dans le programme électronucléaire français, c'est de dire « j'assure le vieillissement du parc existant, je renouvelle le parc essentiellement avec des réacteurs à eau pressurisée qui s'appuient sur les technologies que je connais, et je commence à développer des réacteurs à neutrons rapides qui me permettent de fermer le cycle du combustible, c'est-à-dire de gérer le plutonium comme une ressource et plus comme un déchet. Ça me permet aussi de gérer, soit dit en passant, tout l'uranium-238, dont autrement, je sais pas quoi en faire. Donc, et puis maintenant, vous pouvez dire les technologies de rupture. Et étant scientifique, vous pensez bien que je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas étudier celles-là. Mais ça veut dire qu'elles ne sont pas dans un état de maturité qui nécessite de les déployer tout de suite. Et vous avez typiquement les réacteurs à sel fondu. Les réacteurs à sel fondu sont un concept extrêmement séduisant dont je vais vous parler. Mais ce concept-là nécessite des études, notamment sur la capacité des matériaux à supporter quelque chose d'aussi désagréable qu'un fluorure de thorium. Eh bien, ça ne va pas se faire comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut développer plutôt des boucles d'analyse des matériaux pour construire le réacteur plutôt que de développer le réacteur tout de suite. De la même manière, si vous pensez à la fusion, alors j'ai toujours tendance en plaisantant, mais ça ne veut pas dire, on m'interprète souvent de travers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la fusion, mais je dis la fusion résoudra nos problèmes d'énergie quand les voyages intergalactiques résoudront nos problèmes de surpopulation. Ça sera sûrement vrai à un moment, mais ce n'est pas vrai tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut l'étudier, mais il faut l'étudier comme une technologie en rupture dont le déploiement n'est pas pour aujourd'hui. Alors, je viens maintenant à la fermeture du cycle, qui est le cœur de la réflexion que j'ai essayé de vous présenter. Voilà un cycle typique d'un réacteur à eau légère et à eau pressurisée. Donc typiquement, les réacteurs qu'on a chez nous, nos 58 réacteurs, étaient comme ça. Donc vous avez votre combustible que vous fabriquez en enrichissant l'uranium, mais pas trop. Donc vous avez rajouté un petit peu plus d'uranium-235, et puis cet enrichissement, vous le passez dans le réacteur, puis vous vous retrouvez avec un combustible usé. Alors généralement, on ne l'a pas usé assez. Et là, vous voyez un truc qui est aussi assez tordu, c'est que la raison pour laquelle on arrête avant d'avoir usé tout l'uranium-235, c'est qu'en fait, les tubes qui contiennent ce combustible sont des tubes qui sont en zirconium. Pourquoi en zirconium? Parce qu'ils sont transparents aux neutrons. Souvenez-vous que tout ça, c'est une histoire d'épicerie à neutrons. Ils sont transparents aux neutrons, mais manque de bol, ils se corrodent. Donc ça veut dire ce qui va garantir, ce qui va donner la durée de vie des combustibles, eh bien ça va être la durée de vie de la gaine du combustible. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a du combustible usé, toute l'idée des réacteurs à neutrons rapides dont je vais vous parler, c'était de prendre ce combustible usé et de le faire fonctionner dans des réacteurs à neutrons rapides. Quand on a commis la bêtise d'arrêter la filière à neutrons rapides, il y a une idée qui a été de se dire « bon ben, ce que je vais peut-être faire, c'est grosso modo, je vais pas perdre sur toute la ligne, donc je vais rajouter du plutonium dans le combustible usé, je vais appeler ça du MOX, et ce MOX, ça va, je vais le faire faire un deuxième tour dans le réacteur. » Alors maintenant, si je regarde le réacteur à neutrons rapides, et là c'est beaucoup plus simple sur le dessin, c'est-à-dire vous fabriquez votre fuel, vous le faites passer dans le réacteur à neutrons rapides et puis vous faites du multi-recyclage. Et le multi-recyclage fonctionne parce qu'à chaque fois que vous le refaites passer dans les neutrons rapides, vous n'êtes pas en train de bousiller votre plutonium, vous n'êtes pas en train de créer des actinides mineures qui vous embêtent. C'est-à-dire tout ce qui se passe, si vous essayez de faire ça dans un réacteur à neutrons lents, vous allez vous retrouver à bousiller le plutonium qui est une ressource, vous allez en faire un déchet, et vous allez réussir à faire des combustibles qui vont être beaucoup plus irradiés, qui vont être beaucoup plus difficiles à gérer en aval, et qui vont être beaucoup plus difficiles à gérer dans le parc. Alors ça m'amène aux trois options dont je voulais vous parler. La première, c'est l'option « j'ai envie de l'étudier », qui est l'option réacteur à neutrons les réacteurs à neutrons rapides à sel fondu. J'ai envie de l'étudier parce que ça me semble une solution intéressante, et en particulier quand ça utilise une filière qui est une filière au thorium, parce qu'il y a beaucoup plus de thorium que d'uranium. Mais ce n'est pas une solution qui est immédiatement déployable à cause de ces problèmes de difficulté de réaction du sel fondu avec les matériaux de structure. Donc voilà le principe. Alors c'est assez joli en principe. L'idée est assez chouette. C'est de dire, je fais un combustible qui est non pas un combustible solide, comme dans les réacteurs classiques, mais qui est un combustible qui est un sel fondu. Ça veut dire qu'en gros, je peux le nettoyer au fur et à mesure que je l'utilise. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de ressortir les trucs, de les passer dans l'usine, de faire fonctionner cette usine pour séparer les isotopes qui ne me plaisent pas, etc., etc. Je le fais directement. Alors ça ressemble un peu à du yak à faucon. C'est-à-dire que vous avez un combustible liquide qui utilise à la fois, qui est à la fois dans le réacteur, donc là vous avez votre usine nucléaire, puis vous avez juste à côté l'usine qui est l'usine de reprocessing du combustible liquide. Alors ça, c'est beau comme l'antique, quand on le dit comme ça, mais à part que c'est beaucoup plus facile de faire de la plomberie et de la tuyauterie avec de l'eau que de faire de la plomberie et de la tuyauterie avec des réacteurs, avec des sels fondus. Donc vous allez avoir un certain nombre de problèmes qui vont se poser. Alors il y a tout un tas de réacteurs à sel fondu qui ont été imaginés, qui sont très faciles à mettre sur le papier. Le avantage, c'est que c'est aussi des concepts qui permettent d'imaginer de nouvelles solutions, et notamment d'imaginer des solutions de sûreté, qui sont assez intéressantes, des solutions de sûreté passive. Donc je dis, ça vaut le coup de les faire, parce que ça force les gens, ça force les ingénieurs à penser un peu en dehors de la boîte, et être à nouveau créatif. C'est un domaine, le nucléaire, qui pour de bonnes raisons, souvent, est devenu extrêmement conservateur. Donc de pouvoir repenser en dehors de la boîte est plutôt une bonne idée. Maintenant, de s'imaginer qu'on a ça disponible sur étagère, ça me semble un petit peu abusif. Alors voilà, quelques exemples, je ne vais pas vous les citer, mais vous voyez, c'est juste pour vous donner les gammes de température. C'est typiquement, on se retrouve aux alentours de 700 degrés, ce qui est quand même pas tout à fait neutre pour des matériaux métalliques, et avec des sels fondus qui sont des fluorures de thorium, des machins comme ça. La raison pour laquelle on choisit tel ou tel sel, c'est pas par vice, hein, c'est simplement il faut que ça soit compatible avec la neutronique, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire une version neutron rapide. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une autre solution dont vous entendrez sûrement parler, parce que je considère ça comme une escroquerie pure. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été étudié dans les années 70 à EDF. Je veux dire, on a regardé sur toutes les coutures ces trucs-là, ça a été dû à EDF, ça a été dû au CEA. C'était grosso modo l'idée de partir du réacteur du MOX, c'est-à-dire je le repasse un tour dans le réacteur à neutrons lents, puis je refais un tour, puis je refais un tour, puis je me dis ça a marché une fois, ça a bien marché plein de fois. À part que, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites le bilan, là vous avez ici, dans la première colonne, les réacteurs à eau pressurisée, les réacteurs à eau pressurisée MOXé, les réacteurs à eau pressurisée avec du multi-recyclage et les réacteurs à neutrons rapides avec du multi-recyclage. Et dans les différentes colonnes, vous avez la nécessité en uranium enrichi, le pourcentage de 235 qui est fissionné, la partie qui est non utilisée dans les matériaux fissiles et les transuraniens produits. Et je vais simplement regarder la dernière colonne. Ce que vous voyez, c'est que quand vous faites du multi-recyclage en réacteur à eau, à eau légère, c'est-à-dire en gros le réacteur à neutrons lents, eh bien, effectivement, on va vous dire, vous voyez, je diminue la quantité de plutonium. Ce qu'on oublie juste de vous dire, c'est que j'augmente la quantité de transuranien, c'est-à-dire j'augmente la quantité d'actinide. C'est-à-dire que je me retrouve avec du combustible qui est de moins en moins bon, et je me retrouve avec une efficacité qui est de plus en plus faible. C'est-à-dire, d'une part, je ne fais pas un usage meilleur du combustible en amont, mais d'autre part, je me pourris la vie sur la manière dont je vais le gérer en aval. Donc c'est ce que j'appelle une fausse bonne idée. Alors, c'est la dernière colonne. C'est-à-dire tu regardes la dernière colonne, c'est les transuraniens produits et le plutonium produit. Alors, dans le PWR et du multi-recyclage, on ne produit pas de plutonium, mais on augmente la quantité de transuraniens. C'est-à-dire on augmente la quantité d'éléments aussi sympathiques que le curium, le neptunium, l'américium, enfin tous ceux qui pourrissent la vie. Donc vous voyez, un truc comme ça, on peut parfaitement vous le vendre en vous disant c'est génial, d'abord vous savez qu'on sait faire du MOX, donc on devrait pouvoir le faire sans problème. Ça permet de dire au gouvernement, vous voyez bien que vous aviez raison de pas arrêter, d'arrêter les réacteurs à neutrons rapides, puisqu'on a une solution de transition, on a une solution de remplacement. Bah, c'est juste pas vrai. Alors maintenant, je vais aller au deuxième point. Alors, il y a des tas de gens qui ont intérêt à pousser ce truc-là. Gardez avec les idées simples que j'ai pu vous donner, je pense que vous pouvez regarder avec un regard critique ce qu'on peut essayer de vous vendre de ce côté-là. Alors maintenant, je vais vous parler d'un exemple à construire, c'est-à-dire le réacteur refroidi au sodium liquide. Réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium liquide, donc voilà le concept. Il est à 500 degrés, il n'est pas sous pression. Pas besoin de monter sous pression, 500 degrés c'est suffisamment important pour pouvoir avoir un cycle de Carnot qui fonctionne bien. Alors vous allez me dire, un cycle de Carnot, une machine à vapeur, j'ai pas envie d'avoir la vapeur trop près du sodium. C'était une des idées qui a été développée dans le réacteur Astrid, c'est-à-dire d'avoir un double échangeur, un premier échangeur entre le sodium et du gaz, du CO2, et un deuxième échangeur entre le CO2 et la vapeur. Ce qui fait qu'il n'y avait jamais de contact entre l'eau et le sodium. Et il y a tout un tas de choses qui ont été faites entre Superphénix et le projet Astrid. Pas percolé jusque dans les neurones du gouvernement, ce truc-là. Donc, vous aviez... Et d'autre part, je vous ai dit que le sodium lui-même est un matériau qui est extrêmement sympathique, un liquide qui est extrêmement sympathique pour les métaux constitutifs, donc ça veut dire que les problèmes de corrosion sont bien moindres que les problèmes de corrosion que vous avez dans les réacteurs à eau pressurisée. Alors, ça existe. Alors, je vais revenir tout à l'heure, quand je vous parlerai de l'historique, je vais revenir sur ce qui a été fait en France. Et là, pour vous montrer le développement des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium en Russie, vous voyez que on a des réacteurs qui vont jusqu'à 1200 MW, qui sont actuellement en développement. Vous avez déjà 5 réacteurs comme ça. Les Chinois ont lancé un réacteur à neutrons rapides le mois même où nous avons arrêté le projet Astrid. Intéressant. Si vous prenez Bill Gates, le concept de TerraPower, Bill Gates passe quand même pas pour être une brêle, hein. Je veux dire, le gars, il réfléchit pas mal. Le concept de TerraPower s'appuie sur les études qui ont été faites en France entre les années 70 et 80 dans les neutrons rapides. Et pourquoi Bill Gates va de ce côté-là? C'est simple. C'est exactement pour la raison que disait Marc tout à l'heure. Le nucléaire va probablement se développer dans les années à venir, simplement parce qu'on va avoir besoin d'électrifier notre économie. Et que si on a besoin d'électrifier notre économie, la quantité d'uranium disponible sur la planète pour faire ça n'est pas suffisante. Nous, l'uranium qu'on a en réserve, grosso modo, on peut imaginer d'avoir à peu près 100 ans d'autonomie si toutes les filières d'électronucléaire se développent sur la planète. Alors maintenant, si par contre vous passez au réacteur à neutrons rapides, eh ben vous passez de 100 ans d'autonomie à plus de 1000 ans d'autonomie. Donc ça veut dire que là, vous êtes dans une situation où vous avez une ressource qui est beaucoup plus importante et une gestion des déchets qui est beaucoup plus facile. Alors, et donc, pourquoi Bill Gates est là-dedans? Parce qu'il a parfaitement compris que cette technologie, c'est la clé de voûte d'un nucléaire soutenable. Ce qui est triste, c'est que cette idée-là, elle avait été comprise d'abord par Fermi, il y a 80 ans, mais en France, elle avait été comprise par quelqu'un dont je vais vous parler un peu plus tard, qui s'appelle Georges Vandriès, qui avait exactement vu en quoi les neutrons rapides étaient stratégiques pour un pays qui n'avait pas de ressources et qui avait de forts besoins en énergie. Alors, de la même manière, les Russes ont développé, chose qu'on n'a pas encore assez fait en France, ils ont développé toute une filière industrielle de fabrication du combustible pour les réacteurs à neutrons rapides. Bis repetita, non placent. Une expérience récente, celle que j'ai pu vivre en tant que haut-commissaire pendant 6 ans, une des raisons qui m'ont fait partir. Je vous donne 2 extraits des rapports rendus en 2017 au gouvernement. La fermeture du cycle du combustible est une condition indispensable au développement d'un nucléaire durable assurant une gestion rationnelle de la ressource combustible et des déchets. Le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium reste la solution de référence pour assurer la fermeture du cycle. La non-fermeture du cycle poserait des problèmes majeurs dans la gestion des déchets nucléaires. Elle est une option qui est contraire aux intérêts de la nation. On ne peut pas dire qu'ils n'aient pas été prévenus. Les recommandations qui étaient faites par cette commission, que j'avais présidée, où il y avait 8 spécialistes de physique des réacteurs et qui a été évaluée par 4 experts internationaux à qui j'avais demandé leur avis pour savoir un peu si on avait convenablement analysé le problème. L'examen très complet des solutions alternatives de fermeture du cycle présenté dans le présent rapport montre que le RNR sodium est la solution de référence pour assurer la fermeture du cycle et un développement durable de l'option nucléaire. La logique d'ensemble est au cœur de la décision du pays depuis plus de 40 ans d'assurer son indépendance énergétique grâce au nucléaire. Le RNR sodium dispose de plus de 20 ans d'avance. C'est la raison pour laquelle Astrid est un choix pertinent. Le projet Astrid pour un passage obligé pour la fermeture du cycle n'a lui-même de sens qu'associé à un programme de recyclage du combustible. La voie de multi-recyclage partiel en réacteur à eau pressurisée ne pourrait constituer qu'une voie d'attente et en aucun cas une voie de substitution. Ce que je viens de vous expliquer en vous disant que c'est une fausse bonne idée. Tout ça, c'est écrit en 2017. L'absence de décision en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides conduit à requalifier comme déchets les 300 000 tonnes d'uranium appauvri et les MOX qui, devenant des déchets à haute activité à vie longue, devront être descendus en stockage profond. Cela nécessiterait un redimensionnement de CIGEO. Ça a été transmis au plus haut niveau de l'État. Alors voilà ce qui s'est passé. Ça a été géré par des comptables qui ont dit ben « voilà le prix de l'uranium, ça vaut pas le coup, il est pas cher, il y en a plein, donc c'est pas la peine de s'enquiquiner, avoir une ressource en uranium ». Donc ça, c'est ce que vous pouvez attendre d'un homme politique, c'est pas ce que vous pouvez attendre d'un homme d'État. Et je vous cite cette magnifique citation de Schumpeter « Les mauvais politiciens sont comme les mauvais cavaliers, tellement préoccupés par rester en selle qu'ils en oublient où ils doivent aller ». Alors, maintenant, je vais terminer en faisant un petit peu d'histoire et en vous parlant un peu du futur. Un peu l'histoire parce que, si j'ose dire, une des choses que j'ai essayé de faire avant de partir, c'est de dire on a une expérience sur les réacteurs à neutrons rapides et j'ai fait écrire un retour d'expérience, tout ce qu'avaient vécu les gens sur les réacteurs à neutrons rapides, les difficultés qu'ils avaient rencontrées, les aspects techniques qu'ils avaient eu à résoudre. Et ça, c'est un travail qui a été fait par un groupe qui comprenait des ingénieurs du CEA, des ingénieurs d'EDF, des ingénieurs de Framatome. Parce qu'il me semblait important d'avoir ce retour d'expérience pour pouvoir repartir. Alors, quelques points. Superphénix a été le plus grand réacteur à sodium jamais construit. Sur 11 ans, il a eu 53 mois d'activité et 51 mois de non-activité. Il y a eu trois incidents d'opération qui ont conduit à 25 mois de réparation d'arrêt pour réparation. Ces 25 mois d'arrêt pour réparation, ça veut dire qu'il y a eu 25 mois d'arrêt pour des raisons purement administratives. Au cours de la dernière année d'opération, le réacteur a été couplé au réseau pendant 245 jours sur un an. La construction a duré 7 ans et a coûté 5,7 milliards d'euros ou équivalent en 2012. C'est un projet européen qui a été construit en même temps avec l'Italie et l'Allemagne. Les études de sûreté étaient menées en parallèle avec le projet au niveau de sûreté qui était exigé pour les autres réacteurs du parc. On a constaté sur expérience que la dosimétrie de fonctionnement ainsi que les déchets produits étaient beaucoup plus basses que celle des réacteurs à eau pressurisée. Il y a eu une opposition politique forte parce que, comme je l'ai dit récemment, les antinucléaires connaissent malheureusement mieux le nucléaire que les gens qui prétendent défendre le nucléaire. Et ils avaient parfaitement compris que la clé de voûte d'un nucléaire durable, c'est les réacteurs à neutrons rapides qui permettent de fermer le cycle. Il a été arrêté en 1997 comme part d'un accord politique entre les Verts et le Parti Socialiste. Et les deux noms qui doivent, à mon avis, passer à être dans l'histoire pour ça, c'est Lionel Jospin et Dominique Voynet. Alors, on peut se poser une question. On a revoyé un peu le calendrier de la génération 1, 2, 3 et 4. On peut se poser la question de est-ce que le pays de Pasteur, qui ne sait plus faire de vaccins, sera aussi celui de Joliot Curie, qui ne sait plus faire de centrales? Donc, il n'y aura pas de génération 4 si on ne relance pas vigoureusement la génération 3. Si on se contente de gérer le vieillissement du parc, c'est la garantie d'une perte de compétences à court terme et de la nécessité d'apporter à moyen terme une technologie dont nous pouvons encore garder la maîtrise. Alors, je vais terminer par un tout petit peu d'histoire. On a des voisins, ici, c'est le Panthéon. Vous remarquerez, quand vous visitez le Panthéon, qu'il y a très peu de scientifiques dans le Panthéon, il n'y a pas un ingénieur. Le scientifique qu'il y a dans le Panthéon, c'est Marcelin Berthelot, parce qu'il a été ministre. Ça vous donne un peu une idée de la perception qu'on peut avoir de la science et de la technique dans ce pays. Le dernier qu'on a envisagé de faire entrer au Panthéon, je pense qu'aurait été un symbole magnifique, c'était Diderot, qui était l'héritier des Lumières, qui était un remarquable écrivain, et qui était aussi quelqu'un qui était passionné de science et de technique. On n'a pas jugé digne de rentrer. Alors, je voudrais juste dire, si tu veux savoir d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Ça, c'est un proverbe. Je crois que quand on dit que c'est un proverbe sénégalais, j'ai jamais vu la source exacte, mais je trouve que le proverbe est beau. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Eh bien, vous avez un président de la République qui était un lettré, qui était un agrégé de grammaire, qui était suffisamment intelligent pour ne pas s'imaginer tout savoir. Vous aviez un premier ministre, Pierre Messmer, qui était un juriste, un ancien colonel de la Légion étrangère, qui n'avait rien d'autre à gérer que l'intérêt du pays et pas l'intérêt de sa carrière. Vous aviez un homme de l'ombre, qui s'appelait Bernard Heisenberg, qui s'appelle toujours Bernard Heisenberg, c'est le seul qui est vivant de cette triade, et qui était un ingénieur, mais un vrai. Un ingénieur qui savait ce qui se passait dans les usines. Vous aviez de l'autre côté un tissu industriel absolument remarquable, avec quelqu'un qui est toujours vivant, qui pour moi rentre dans la catégorie des très très grands serviteurs de l'État, qui est Marcel Boiteux, qui était le patron d'EDF, et qui a eu le cran de dire à l'époque qu'il valait mieux développer pour le pays une filière à neutrons thermiques qui était éprouvée et qui était la filière à eau pressurisée, qui était la filière de Westinghouse, donc on a acheté la licence de Westinghouse et on l'a francisée, plutôt que de partir sur la filière à graphite gaz, qui était la filière française, développée au CEA, mais qui ne pouvait pas passer à l'échelle, parce que pour pouvoir extraire plus de chaleur, eh ben, il fallait faire passer le gaz plus vite et en user le graphite. La première chose que j'ai faite en étant au commissaire, ça a été d'aller voir Marcel Boiteux. Et je me suis dit, en voyant Marcel Boiteux, qu'on pouvait... C'était pas la peine d'avoir un service de stratégie, il suffisait de ramener Marcel Boiteux à EDF, ça suffisait. Il avait largement plus de 90 ans à l'époque. En plus de Marcel Boiteux, vous aviez Georges Besse. Georges Besse, qui est le monsieur qui a développé l'usine d'enrichissement de Pierre Latte. Alors, soit dit en incidence, Georges Besse a été assassiné par des terroristes et l'appartement de Marcel Boiteux a été plastiqué. C'est vous dire un peu où peut mener le fanatisme. D'autres personnes, Jean-Marc Lény, qui était le patron de Framatome, et Michel Hugues. Michel Hugues est mort il y a 3 ans. Michel Hugues est le grand organisateur de toute la construction du parc. Sa mort est passée complètement inaperçue. Il n'y a pas une ligne d'éloge, alors qu'on passe notre temps à faire des éloges de je ne sais quel chanteur évasé fiscal, en disant que c'est un grand homme de la nation. Donc, Michel Hugues, c'est un nom que j'aimerais bien que vous reteniez, parce que si on veut reconstruire un parc, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est retrouver toute la stratégie, la dynamique qu'il avait mis en place pour pouvoir faire travailler des entreprises ensemble, pour faire travailler ensemble Framatome et EDF. Et c'est ça qui a permis de le faire. Mais derrière ça, et ça, ça sera un autre exemple qui me semble intéressant, il y avait un organisme qui s'appelait le CEA. À la tête du CEA, vous aviez un grand ingénieur, un vrai, qui s'appelait André Giraud. Comme haut commissaire à l'énergie atomique, vous aviez un grand physicien qui s'appelait Jean Théillac. Et puis vous aviez, à l'étage en dessous, vous aviez Jules Horowitz, qui s'est occupé de tous les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs d'études. Alors Jules Horowitz, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais il avait dans son bureau un tiroir où, quand on lui proposait de créer un réacteur, il sortit du tiroir une feuille de papier où il y avait quelques ordres de grandeur et disait « bon, bah, il faut le dimensionner comme ci, comme ça et comme ça ». Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et puis vous aviez un monsieur qui est maintenant très injustement oublié, qui est Georges Vandriès. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Georges Vandriès, c'est le père des réacteurs à neutrons rapides en France. Alors, Georges Vandriès, j'ai fait réaliser, c'est une chose dont je suis très fier, j'ai fait réaliser un volume d'hommage à Georges Vandriès par les gens qui ont travaillé avec lui. Pour vous dire à quel point les gens peuvent devenir mesquins, dès l'instant où il a été décidé de ne pas continuer le réacteur Astrid, c'est-à-dire l'héritage de Vandriès, les successeurs de l'administrateur général ont décidé de ne pas publier ce livre. Le livre a été publié sur le site des retraités du CEA. Vous pouvez le trouver là-dedans. Vous voyez ce que c'est qu'un très grand ingénieur qui a été l'honneur de ce pays. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de voir Georges Vandriès peu de temps avant qu'il meure. Et je l'avais amené dans mon bureau, je l'avais fait venir dans mon bureau pour qu'il rencontre le jeune ingénieur qui était en charge du projet Astrid. Et je crois que c'est une des choses les plus émouvantes et les plus superbes que j'ai eu à faire, que de voir ce passage de flambeau entre deux très grands ingénieurs. Alors maintenant, je vais rendre la parole à Georges Vendriès, à qui je voudrais dédier ce séminaire. Deux phrases qu'on trouve dans un petit livre qui est une merveille, qui s'appelle Superphénix, pourquoi ? Pourquoi Superphénix ? Alors Georges Vendriès était un éminent linguiste, il lisait Tacite tous les matins. Son père, je crois, était professeur au Collège de France en linguistique. Georges Vendriès citait dans son ouvrage une phrase de Sénèque : il viendra un temps où nos descendants s'étonneront que nous ayons ignoré de telles évidences. Et une deuxième phrase qui me semble d'une hurlante actualité : que nos dirigeants ne se laissent pas aller par pure démagogie à brader toute la filière à neutrons rapides au nom d'arrangements partisans de circonstances. La décision qu'ils prendront s'inscrit dans l'histoire, elle a une dimension stratégique, elle concerne l'approvisionnement énergétique du pays à long terme, qu'ils mesurent bien leurs responsabilités. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.